Bonjour toi, Aurore.
Merci.
Bonjour Manim
Merci,
Voilà, nous allons continuer.
merci. C'est
Voilà.
tellement de bien d'être avec vous, Nicolas.
Alors,
On
d'accord,
a
mais
dit
si
que
vous
la
pouvez,
fermeture du cours. Ah, c'est moi,
les
voir.
personnes qui parlent
Non,
là, vous pouvez fermer leur
malheureusement.
micro.
Même tout le monde, fermez vos micros et résumez. Si vous avez une question, c'est plus simple, ça évite les
Non, je
petites
ne
vues
peux pas toucher
parasites.
l'ordinateur, je suis trop
Rabat.
le bout de l'ordinateur de.
Voilà.
Voilà, c'est bon. Bon, eh bien, nous étions en plein, en plein, en plein. Dans le chapitre 9, Teth, la Torah Teth du Likutei Moharan, dans la première partie. Et nous avons, bon, c'est un thème qui revient souvent, c'est le thème de la prière chez Rabbi Nachman, c'est très central. Et on peut dire que l'importance de la prière se traduit, entre autres, par le contact, par la liaison que l'on ressent envers son rave. Le rave, dans ce cas précis, il s'agit donc du rabbi chassidique, le Admor, qui a la capacité d'orienter les prières dans les directions nécessaires, parce que la prière demande de la création d'un canal. Ce canal est un canal intérieur de la vie intérieure, et il est figuré par les 12 canaux qui correspondent aux 12 tribus d'Israël, qui chacune de ces tribus prie à sa manière. C'est la raison pour laquelle vous avez 12 versions différentes du rituel de la prière. En fait, on peut amener ça à une résolution encore plus détaillée. On veut dire que non seulement il y a 12 tribus, mais il y a, disons, une manière de prier particulière à chacun d'entre nous. C'est-à-dire, étant donné que nos personnalités sont différentes les unes des autres, je suis unique au monde d'une certaine manière, eh bien, ça veut dire que il y aurait une multitude, presque infinie, de canaux, de voies qui font monter les prières au ciel. Et ce que Rabbi Nachman dit, c'est que il faut donc lier sa capacité de prier, son chemin personnel, à travers son portail personnel de la prière. Il faut le lier au tzaddik qui lui sait orienter. C'est comme, si vous voulez, il y avait dans l'anti il y avait quelques années, il y avait encore ce qu'on appelle des téléphonistes, c'est-à-dire un technicien ou une technicienne qui a pour rôle d'orienter les différentes communications. Et si la téléphoniste se trompe dans l'orientation des communications, ça donne des catastrophes. Eh bien voilà, c'est ça le travail de la prière. Et bon, c'est un texte assez ardu que nous avons déjà vu, dans lequel Rabbi Nachman nous dit qu'il y a un rapport direct entre la prière et le miracle. Le miracle signifie que la nature n'est pas absolue. De même, la prière demande un miracle. La prière demande que des choses qui ont été, disons, qui sont advenues à travers les voies naturelles, changent. Donc, on peut dire que, littéralement, la prière, c'est la demande d'un miracle. Même si ça ne transforme pas immédiatement les lois de la nature, ce n'est pas la mer rouge qui va s'ouvrir devant vous, mais malgré tout, on demande que l'ordre du monde soit transformé. Maintenant, je pense que nous pouvons voir ça à travers le texte, la lettre Dalet dans la colonne de gauche. Vetzarir kol adam le kasher et tefilato le tzadik ador. Tout homme. Peut-être que, avant de voir ça, rappelez-vous deux lignes avant. Là, vous avez à la fin du guillemets, vous avez entre parenthèses, Ar'i efshar li palel rak kshelomed Torah. On ne peut faire la prière que si on a étudié la Torah. Parce que les sages ont dit dans le traité de Avot que l'ignorant ne peut pas être un homme pieux. Urtiv, Messir, Ozno, Mishemoa, Torah. Il est dit dans Michelet, celui qui écarte son oreille d'entendre la Torah, Gam Tefilato, Toaeva, sa prière est également une abomination. Alors remarquez que cette parenthèse n'a pas été écrite par Rabbi Nachman lui-même. Il y a écrit entre parenthèses, dans la parenthèse, Ketaviad Haveri. C'est le manuscrit des Haverim, les élèves de Rabbi Nachman. Pourquoi est-ce qu'ils ont rajouté ça? Parce que jusqu'à présent, Rabbi Nachman ne parle que de la valeur de la prière, Et après, il va rappeler le rapport entre la prière et l'étude. Alors, pour permettre la transition, on a rajouté ces deux lignes. Voilà. Maintenant, je passe à Dalet. Vetzarir kol adam le kasher et tefilato le tzadik ador. Tout homme doit attacher sa prière au juste de la génération. Vetzadik yodea le chaven asheharim. Et le tzadik, lui, il sait comment orienter, aménager les portes, c'est-à-dire les portes de la prière. Ou les alot kol tefila ou tefila, la char ashayar, et amener chaque prière à la porte qui lui convient. C'est-à-dire que le tzaddik doit savoir identifier, diagnostiquer quelle est la personnalité de la personne qui se lie à lui et comment orienter sa prière vers le ciel. Qui kol tzaddik ve tzaddik hu bechinat Moshe Mashiach. Car tout tzaddik est quelque chose qui ressemble à Moshe Mashiach. Ça veut dire quoi, Moshe Mashiach? Moshe, si nous lisons dans la Torah, était destiné à remplir un rôle qu'il n'a pas réussi à remplir. Il devait faire sortir Israël d'Égypte et les amener en Canaan. Or, ce qui s'est passé, Moshe a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, mais est mort avant que le peuple n'entre en Canaan. On peut dire donc que la mission de Moshe était une demi-réussite et donc un demi-échec au niveau de cette première mission. La deuxième mission de Moshe était de donner la Torah. C'est assez surprenant de voir que c'est le même personnage qui doit remplir une fonction, pourrait-on dire, politique, militaire, guerrière. Il doit faire la conquête de Canaan. Il est également celui qui enseigne la Torah. Alors, si Moshe avait réussi son entreprise, il n'aurait pas été seulement Rabbeinu, notre maître, mais il aurait été également le Mashiach. Et donc l'histoire aurait réussi. Et donc nous aurons vécu une histoire tout à fait différente de ce que nous avons connu, sans tous les malheurs qui nous sont tombés dessus. Mais Moshe n'a pas réussi. On peut dire qu'en fait, l'histoire de la Torah nous raconte un récit tragique. Elle nous raconte que Dieu a créé le monde, qu'à partir de là, il a créé l'humanité, puis Israël, et qu'il les a fait sortir d'Égypte et qu'il leur a donné la Torah, et que finalement le projet a échoué. Il a échoué, c'est-à-dire qu'il est reporté. C'est-à-dire que la Torah s'arrête au milieu d'une mission, et après nous devons continuer dans l'histoire ce que Moshe n'a pas fini. Mais le jour où nous aurons fini, alors ça sera le Mashiach. Mais le Mashiach, en fait, c'est un Moshe réussi. Donc vous avez Moshe Mashiach. D'ailleurs, les enfants d'Israël avaient un problème par rapport à ça lorsque la Torah a été donnée. Vous savez que lorsque Moshe est arrivé voir les enfants d'Israël, il leur a dit, vous savez, je suis celui que vous attendez. Ah bon? Qu'est-ce que nous attendons? Vous attendez un libérateur d'Égypte. Réponse des enfants d'Israël, c'est vrai. Nos ancêtres nous ont dit que viendrait un jour où nous sortirons d'ici et qu'Akadosh Baruch Hu nous enverrait quelqu'un. Donc si c'est toi, c'est très bien. Mais il faut que tu prouves que tu as raison. Moshe dit, écoutez, j'ai quelques petits miracles à vous faire. Je transforme un bateau en serpent. Je sais transformer de l'eau en sang. Donc prenez-moi au sérieux. Les enfants d'Israël disent, c'est vrai, ça a l'air tout à fait, disons, plausible. Mais tant que tu n'es pas sorti d'Égypte, il n'y a pas de preuve. Au moment où les enfants d'Israël passent la mer Rouge, il dit, Vayaminu Bashem Moshe Avdo. Ils ont cru en Dieu et en Moshe. Et ils ont bien voulu croire que Moshe remplissait la fonction qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée de les faire sortir d'Égypte. La preuve, c'est qu'il l'a fait. Ils arrivent au mont Sinaï et Moshe leur dit, vous savez, il y a ici quelque chose d'autre. Vous devez recevoir aussi la Torah. Réaction du peuple, la Torah. On n'a jamais entendu parler de ça, ça ne faisait pas partie du programme. Moshe est suspecté d'avoir imposé sa philosophie religieuse en profitant du fait que le peuple est coincé avec lui dans le désert. Et c'est pour ça qu'il est dit, vois, je viens à toi dans l'épaisseur de la nuée afin que le peuple entende quand je te parle, et alors ils croiront aussi en toi. Ce qui veut dire que le peuple n'avait pas la confiance en Moshe jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu dise clairement aux enfants d'Israël, c'est moi qui ai envoyé Moshe. Et c'est pour ça qu'il est dit, Anochi Hashem Elohecha Asher Otzeticha Meretz Mitzrayim, je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et Rashi dit, ça veut dire quoi, je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte? C'est parce qu'il aurait été apparu sur la mer comme un héros de guerre, Gibor Milchama. Et là, il aurait apparu sous forme de Zaken Malerachamim, un vieillard plein de miséricorde, c'est-à-dire un Rosh Yeshiva. Et Rashi dit quelque chose de très dur. Il dit, Uril Vani Mishtane Bemarot, étant donné que je change d'aspect, Al Tomru Rashuyot Arbe Yesh. Ne dites pas qu'il y a beaucoup de dieux. Anochi Hu Asher Otzeticha Mitzrayim Ve'alayam, je suis le même qui t'a fait sortir d'Égypte et que tu as vu sur la mer. Ça veut dire que le peuple pensait peut-être qu'il y avait deux dieux, le dieu de leurs ancêtres, celui qui les a fait sortir d'Égypte, et un autre dieu, celui de Moshe, qui leur donne la Torah. Et le Anochi Hashem Elohecha, je suis l'éternel ton Dieu, vient nous dire non, c'est le même. Ça veut dire qu'en fait, la mission de Moshe, la mission de Mashiach, c'est la même. Voilà, tout ça c'est pour vous dire donc que le Matan Torah a été donné afin de créer. De créer un système national religieux, d'Atil et Oumi. C'est ça la raison de la révélation du Sinaï. Maintenant, je reviens maintenant à notre histoire du tzaddik. Le tzaddik est celui qui concentre en lui, qui focalise en lui toutes ces missions-là, celles de Moshe et du Mashiach à la fois. Que Moshe Amrou, alors il amène ici la preuve de Rabbi Nachman, comme on l'a dit, Moshe Shapir Kahama. Les sages se disaient entre eux, Moshe, tu as bien parlé. Ce qui veut dire que les Chachamim sont tous des reproductions, d'une certaine manière, de Moshe. Urtiv, Ad Kiyavo Shiloh. Et il est dit, jusqu'à ce que vienne Shiloh. C'est dans la bénédiction que donne Yaakov avant sa mort. Il dit que la tribu de Yehuda régnera jusqu'à l'époque du Mashiach, Shiloh. Shiloh est un des noms du Mashiach. Et le Zohar nous dit, c'est quoi Shiloh? Da Moshe, c'est Moshe. Vous avez vu que la gématria du mot Shiloh, c'est la même gématria que le mot Moshe. Donc, ça, c'était pour prouver formellement que le tzaddik, il est à la fois Moshe et le Mashiach. Ou Mashiach ou Kalul Kolatefilot. C'est quoi le Mashiach? C'est celui qui inclut en lui toutes les prières. Ou Vishulze yé Mashiach, Morah Vedaim. C'est pour ça que le Mashiach pourra juger selon l'odeur. C'est-à-dire, quand on amènera des parties au tribunal du Mashiach, le Mashiach à l'odeur dira qui est coupable et qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce que l'odeur, ça, c'est en rapport avec le nez, et le nez est le nom de la prière, qui a tefilot embichinot hotem, parce que les prières ressemblent au nez, que Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, util latir tom lach, ma louange viendra sous forme nasale. Alors donc, ça, on avait vu déjà dans une des Torahs précédentes qu'il y avait un rapport entre la prière et le nez. La prière, de manière générale, est le lieu du ruach. C'est-à-dire, dans les différents niveaux de l'être humain, vous avez nefesh, ruach et neshama. Et le ruach, c'est le souffle qui passe par les narines. Eh bien, donc, je résume tout. Le tzaddik de la génération auquel je dois lier mes prières, il est à la fois Moshe et Mashiach. Et le Mashiach a pour fonction de ramener toutes les prières ensemble. Ça veut dire quoi? Que le Mashiach a pour fonction de ramener toutes les prières? Ça veut dire qu'il est la focalisation de toutes les prières d'Israël dans toutes les générations. Alors, si vous réunissez toutes les prières d'Israël dans toutes les générations, ça vous donne le Mashiach. Vezeperus. Et alors là, comme on avait vu, dans tous les premiers chapitres du Likutei Moharan, il va nous amener un des contes de Rabba Bar Bar Chana et nous expliquer comment tout ce qu'il a dit se retrouve dans ce texte. Alors, on y va. Vezé Perouche, c'est ce que signifie. Amar Rabba Bar Bar Chana disait, Zimna Hada, une fois, il m'est arrivé, avec Azlinan Bemadbera, que nous marchions dans le désert. Veitlavin Bahadan Havutaya, et un bédouin s'est associé à nous. Regardez dans le commentaire de Rashbam sur la gauche, Taïa Soher Ishmael, un marchand arabe. Ishmael, un arabe. Dahava shakil afra ou morahle. Il prenait de la terre et la santé. Il respirait l'odeur du morceau de terre. Ve'amar, et il disait, ha orha le durta pelan. Ça, c'est le chemin qui mène à tel endroit. Ve'a orha le durta pelan. Et ça, c'est le chemin qui mène à un autre endroit. Amrinanle, alors on lui a demandé, kama mirahakinan mimaya. Quelle est la distance entre là et de l'eau? Amar Lan, il nous a dit, Havouli Afra, donnez-moi de la terre. Yahavinanle, nous lui avons donné. Amar Lan, Tmania Parse. Il a répondu, nous sommes à 8 lieues. Parsa, parasange, c'est une lieue. C'est-à-dire, 8, c'est 4 kilomètres, ça fait donc 12 kilomètres. Tanenan Vehavinanle, une deuxième fois, quand nous avons commencé à marcher, nous lui avons à nouveau donné de la terre à respirer. Amarlan, il nous a répondu, Timrahakinan Tlata Parse. Nous sommes maintenant éloignés de 3 lieux. Afechitle, Velayachilatle. Et nous avons mélangé cette terre, nous avons mangé les 2 sortes de terre, et il ne savait pas comment répondre. Regardez ce que dit Rashi, le Rashbam là sur la gauche en haut. Vafrinan hayafra bayafra. Nous avons mélangé cette terre avec l'autre terre, l'enasoto imievaki kolka, pour le mettre à l'épreuve, pour savoir s'il serait même là donner la réponse. Alors c'est quoi le bédouin qui est un marchand arabe? Eh bien il dit c'est le tzaddik. Zimna hada itlavin bahada nautaya. Il est arrivé que nous c'est associé à nous le bédouin, Socher Ishmael, c'est-à-dire le marchand arabe, Zebechinat Tzadikador. Ça veut dire celui qui est le tzadik de la génération, Shukalul Kolatefilot Kamashiach, qui inclut en lui toutes les prières comme le Mashiach. Moutfilot, Zebechinat Socher Ishmael. Or, les prières ressemblent à un marchand arabe. Pourquoi? Kemoshekatu, car il est dit, Kishama Hashem el Onyech. Dieu a entendu ta misère, Vetargumo, et c'est traduit en araméen, Kibel Hashem Tselotar. Dieu a entendu ta prière. Donc, quand on dit Yishmael, ça veut dire la prière. Veze Soher, et pourquoi est-ce qu'on appelle le marchand? Alors, le mot marchand Soher en hébreu ressemble au mot araméen Sehor, qui veut dire autour. Qui savive Targumo Sehor. Car autour, c'est traduit par Sehor, qui veut dire donc le marchandage, Veze Bechinat Emuna. Et ça ressemble à la foi. Kemoshekato Ve Emuna, Ve Emuna Techa, Se Vivotecha. Il y a un verset dans Télim qui nous dit que la Emuna est ce qui est autour. Ça veut dire quoi que la Emuna est ce qui est autour? Ça veut dire qu'il y a une différence entre Emet et Emuna, entre la vérité, qui est une évidence. Quand vous rencontrez la vérité est évidente. Et quand vous êtes loin de la présence immédiate de la vérité, alors vous êtes dans l'entourage, dans la circonférence. C'est pour ça que la Emuna est appelée Sehor, ce qui est autour, tandis que ce qui est Emet est au centre. Et donc, ce que nous dit ici Rabbi Nachman, c'est que ce passage de Rabba Bar Bar Chana parle en fait du tzaddik et de l'orientation des prières. Vitlavin Bahada Nautaya. Et ce bédouin s'est associé à nous, ça veut dire quoi? Il s'est associé chez Kasharnu et Atzmenu im Tzadikador. Ça veut dire que nous nous sommes attachés, nous avons attaché notre être avec le tzaddik de la génération. Shubihinat Mashiach, la liut atfila, qui est comme le Mashiach, qui est celui qui réunit l'ensemble des prières. Veshakil Afra ou Morah. Il prenait de la terre, il respirait, il sentait. Ve'amar, aledurtaplan, il disait ça va dans telle direction, ça va dans telle direction. Afra, quand on dit de la terre, zebechina tefila, c'est une autre manière de dire la prière. Que Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, yiten ke'afar harbo, il fait il donne sa terre comme son épée. Cherev zebichina tefila, or l'épée c'est la prière. Et Moshe Kato, veharbi uvkashti. Ainsi qu'il est dit avec mon épée et mon arc. Et ça c'est dit pour Yaakov à propos de sa prière. Donc ça veut dire que la prière ressemble à de la terre. Pourquoi? Parce que la terre elle-même n'est rien. Elle n'est que le sol. Mais si vous l'arrosez, et ou bien que vous y plantez une graine, ça pousse. C'est-à-dire que le afar, le terreau, c'est le potentiel de la croissance. C'est exactement ce que fait la prière. Quand je prie pour quelque chose, il ne s'est encore rien passé. Mais ça va se passer. Je demande la santé, je vais l'avoir. Je demande telle ou telle chose, finalement, je vais l'avoir. Donc, la prière ressemble ici à du terrain. Ou morah, et il sentait. Il sentait. C'est-à-dire, le bédouin en question respirait le sol. Qui est le koahazé? Léariach, aliédé, shoukaloul, kolatéphilos. Il a la capacité, il s'agit donc du tzaddik, qui est comme le mashiach. Il a la capacité de savoir où vont les prières. Urtiv, urtilati, irtomlach. Comme il est écrit dans le verset de Yeshayahu. Ve'amar, il nous a dit, ah, les durtaplan, ça va dans telle direction. Shaya yodea sha'are tefilot, parce qu'il connaît les portails des prières. Ve'aya yodea kol tefila shayach lishifto. Et il connaît la prière qui correspond à chaque tribu. Ça veut dire qu'il y a une importance très grande au fait de savoir de quelle tribu on est. Ou, disons, étant donné qu'aujourd'hui nous ne savons pas nos tribus, mais nous savons, il est important de savoir quel est le contexte humain dans lequel telle ou telle personne vit. Parce que parfois, on risque, par exemple, si on est un maître en Torah et qu'on ne sait pas à quel contexte appartient à la personne qui vient vous demander conseil, vous risquez de vous tromper, vous n'avez pas compris ce qu'il veut dire véritablement. Et c'est là le problème. Une petite seconde. Je suis revenu avant. Ve'amri nanle, et alors on lui a dit, Kama merahakina mimaya, quelle est la distance entre nous et l'eau? Ve'amar avouli afra, il a dit, donnez-moi de la terre. Ve'avi nanle, amar lant mania parsi, on lui a donné, il a dit qu'il y a 8 lieux entre nous et l'eau. Tenenan ve'avi nanle, une deuxième fois on lui a donné, ve'amar lant lata parsi. Et la deuxième fois, il nous a dit, nous sommes à 3 lieux. Afirid vela yachlile. Et quand on a mélangé, il n'a pas su le faire. Hainu amrinanle. Alors maintenant, il va nous expliquer à nouveau. Amrinanle kama merahakinan. Anan merahakinan maya. Quelle est la distance entre nous et l'eau? Mibrinat, shifri. Liber kamaim nochar peneache. C'est-à-dire, quelle est la distance entre nous et la capacité de déverser notre cœur comme de l'eau face à Dieu? C'est-à-dire, nous voulons faire la prière, et quand la prière est véritablement réussie, c'est qu'on a réussi à verser son cœur comme de l'eau. On se donne entièrement dans la prière. Et la question était de savoir, qu'est-ce qui nous sépare de la capacité de faire la prière? C'est ça que ça veut dire, chercher à savoir quelle est la distance entre nous et l'eau. Amar lant mania, il nous a répondu 8 bichinot, 8 niveaux. Haynu, limud haTorah, shehu chamisha chumshei Torah, veshalosh tefilot. Il s'agit de l'étude de la Torah, qui est faite de 5 livres, les 5 livres du Pentateuque, et 3 prières. C'est-à-dire 5 et 3, ça fait 8. Tanenan ve'yahavinanle. La deuxième fois, nous lui avons donné. Alors, le mot tanenan, la deuxième fois, c'est comme s'il était dit taninan. Nous avons étudié. Tanenan leshon limud. Donc, nous avons finalement rempli les 5 premières conditions. Ils sont d'étudier la Torah. Et après avoir étudié, on lui a donné à respirer pour savoir quelle est la différence, qu'est-ce qui nous sépare encore de la de l'eau, c'est-à-dire de la capacité d'une prière totale. Marlan Tlata Parse, il nous a répondu, il vous reste encore trois lieux. Hainu, Shelosha, Bechinat Tefilot, c'est-à-dire les trois façons de prier, celle de Shacharit, Mincha et Arvit. Ça veut dire que il est très bien d'étudier la Torah, c'est même recommandé, c'est tout à fait louable, mais il faut encore savoir prier. Ça me rappelle l'histoire du Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman de Ladi, quand il était jeune, et il avait, je crois, 18 ans, il était déjà un très grand maître en Torah, et il hésitait entre aller étudier la Torah à Vilna, chez le Gaon de Vilna, ou bien aller à Meseritch, être en contact avec le Maguide de Meseritch, qui était l'élève du Baal Shem Tov. Et il a répondu à lui-même en disant, moi, étudier, en fait, je sais déjà. Mais prier, je ne sais pas encore. C'est comme ça qu'il est devenu chassid, qu'il est allé chez le Maguide de Meseritch. Anecdote intéressante, il est resté un mois chez le Maguide de Meseritch, il est reparti. Pourquoi il est reparti? Parce qu'il était encore rempli de l'étude, il n'était pas satisfait du niveau de l'étude chez le Magui. Après un certain temps, il est revenu chez le Magui de Meseritch, et quand il est arrivé à la porte, alors le Magui a dit, tiens, le Litvak, c'est-à-dire le Lituanien, s'est abîmé. C'est-à-dire, il est enfin devenu un chassid. C'est-à-dire, il est passé de l'étude à la prière. Mais enfin, vous voyez que Rabbi Nachman comprend que c'est très important de faire d'abord, de commencer par l'étude, mais ça doit se parachever par la prière. Ve'amarlan tlata parse, il nous a répondu, donc il restait encore trois lieux qui sont shalosh, bechinot, tefilot, qui sont les trois formes de la prière. Ve'ra lanu siman alze, she'adain lo'iganu le'madrigazot. Il nous a donné un signe pour nous faire comprendre que nous n'étions pas encore arrivés à ce niveau-là, d'avoir la capacité de prier avec beaucoup de concentration, au point de pouvoir déverser notre cœur devant lui comme de l'eau, et la preuve, aferit, nous avons mélangé, alors ici c'est quoi aferit? Kemo shekatou, Aftashiv tzur harbo velo akemoto bamilchama. Ça veut dire, toi, notre rocher, tu as ramené son épée et tu ne l'as pas soutenu dans la guerre. C'est-à-dire, ki kol atefilot embrinat harev etzel mashiach, parce que toutes les prières sont comme des épées chez le mashiach. Vimayu atefilot babrina anal, et si les prières étaient du niveau dont nous avons parlé, c'est-à-dire que la capacité d'être totalement concentré et de se déverser dans la prière, alors notre rocher, c'est-à-dire Dieu, n'aurait pas renvoyé notre épée. C'était donc le signe que nous n'étions pas encore arrivés au niveau de déverser notre cœur comme de l'eau face à la présence de Dieu. Donc tout ça, c'était pour expliquer cette histoire du Bédouin, qui en fait leur a fait comprendre que pour arriver au niveau messianique, il faut d'abord passer par l'étude de la Torah, puis la prière, et alors déverser son cœur. Alors, vous savez que il y a quand même quelque chose qu'il faut élucider, c'est cette histoire de se lier au tzaddik. Se lier au tzaddik, il y a une très grande réticence par rapport à cette institution du chassidisme chez les Mitnagdim, les opposants du chassidisme, qui disent on n'a pas besoin de passer par le tzaddik, on peut se lier directement à Dieu, et non seulement on n'a pas besoin du tzaddik, il y a un risque finalement d'idolâtrie, c'est-à-dire de culte de personnalité, ou plus précisément de se lier, au lieu de prier Dieu, on prierait l'esprit ou la neshama du tzaddik. Alors, ça a été très, très développé dans le Nefesh HaChaim. Nefesh HaChaim, le livre central de la pensée lituanienne chez Rabbi Chaim de Volozhin, qui consacre tout un chapitre au fait qu'il est interdit de prier, même à la Neshama d'un tzaddik. Et ce livre est arrivé chez le Rav Gedalia Koenig, qui était le grand maître des chassidim de Breslav à Tzfat au siècle dernier. Et il a été donc bouleversé. Il a écrit un livre pour expliquer que ça n'avait rien à voir avec la liaison avec le tzaddik dont parle Rabbi Nachman de Breslav. Alors, comme le livre de Rabbi Chaim de Volozhin s'appelle Nefesh Achaim, dans sa réfutation, il a écrit un livre qui s'appelle Chaye Nefesh, c'est-à-dire le contraire de Nefesh Achaim, Chaye Nefesh, dans lequel il explique qu'en fait, la prière est entièrement adressée à Dieu et que le tzaddik n'a que pour seule fonction que d'orienter les prières. C'est comme un aiguilleur des voies ferrées. Avant, ça se faisait à la main. Vous savez qu'avant, dans Le Petit Prince, il y a un aiguilleur qui donne la direction au train. C'est ça la fonction du tzaddik. Utfila hi bechinat nissim. Maintenant, nous passons donc au fait que la prière, c'est le miracle. On avait commencé à en parler au début du cours. Alors, c'est quoi utfila hi bechinat nissim? Shehu en derech ateva, qui est le contraire du chemin de la nature. Kilifamim ateva mechayev ezedava. Parce que parfois, la nature oblige une certaine chose. Va tefila, mais aperet et ateva. Or, la prière renverse la nature. Veikar anissim aynu ikar atfila. Et l'essentiel des miracles, c'est-à-dire l'essentiel de la force de la prière, et non ella beret Israël. C'est surtout en eret Israël. Kemo shekatuv, shechon eretz ura'e emuna. Ainsi qu'il est dit, réside dans la terre, il s'agit donc de la terre d'Israël, et fait paître en foi, en confiance. Vemuna zetefila. Or, le mot emuna désigne également la prière, que Moshe Katou vaï yadav emuna, ainsi qu'il est dit, il a levé ses mains en foi, ketargumo, comme il est dit là-bas dans le targum, là-bas le targum dit bitzlo, ce qui veut dire dans la prière. C'est pour ça qu'on a dit qu'Eret Israël est plus élevé que tous les pays. Parce que l'essentiel des miracles, ça se fait là-bas. Urtiv harimi nes, il est dit, lève ton étendard. Un étendard, ça se dit nes, qui veut dire également un miracle. Ubishvilze, donc c'est le pays le plus haut, c'est également là où on peut lever le miracle, harimi nes. C'est pour ça que le pays de Kenaan est appelé Kenaan, les Shon Socher, parce que Kenaan veut dire également un commerçant. Bechinat Emuna, que Moshe Katouv et Emuna Techa Sivotecha, qui correspond à la Emuna, comme on avait vu que la Emuna est ce qui est autour. Parce que le mot autour en hébreu, en araméen, se dit Secho. Alors maintenant, non, c'est pas la peine de passer au prochain paragraphe, mais c'est encore dans ce paragraphe. Alors, c'est l'histoire des Rêtes Israël et les miracles, ça veut dire quoi? Eh bien, il y a un problème, c'est est-ce qu'il y a un contact ou pas entre le monde de la nature? Est-ce que, la question là de Yaakov Zerbib, est-ce que cette phrase de Shehu en derech ateva est une phrase grammaticalement correcte? Pouvez-vous éclaircir cette phrase, s'il vous plaît? Alors, on ne peut pas dire qu'elle est grammaticalement correcte, puisque le mot correct en hébreu, en français, ça s'écrit avec deux T-E. C'est un mot féminin. Donc, c'est déjà grammaticalement, la question est grammaticalement incorrecte. Mais non, ce n'est pas grammaticalement correct, mais ça n'a aucune importance. C'est l'hébreu de Rabbi Nachman. Il dit simplement que la prière, c'est ce qui ne va pas selon la nature. D'accord, peu importe si c'est notre hébreu ou pas. Maintenant, je reviens à... Tu acceptes ça avec joie, n'est-ce pas, Yaakov Zerbib, tu ne te fâches pas. Maintenant, donc, je reviens à l'histoire de Eretz Israël. Est-ce qu'il y a un contact entre le monde de la nature et le monde surnaturel? La réponse est que ça ne peut pas. Il ne peut pas y avoir de contact, parce que si le monde qui est au-delà de la nature était en contact permanent avec la nature, il n'y aurait pas de nature. Mais il peut y avoir ce qu'on appelle un point de contact. Mais ce point doit être réduit. C'est-à-dire si la largeur du miracle était trop grande, le monde ne pourrait pas tenir. Donc il faut un point. C'est pour ça que c'est dans un pays plus que dans un autre. En Eretz Israël, plus que dans tous les autres pays du monde. Et plus précisément, à Jérusalem. Si vous avez vu dans le livre de Yehoshua, quand il est question de la conquête d'Eretz Israël, alors, le texte de Yehoshua nous parle de miracles. Il y en a, en tout, je crois, 5. On va faire la liste. Le passage du Jourdain, la chute des murailles de Jéricho, les pierres de Beth-Horon et l'arrêt du soleil et de la lune à Givon et à Ayalon, ce qui nous donne en fait 4 miracles. Ces 4 miracles se situent tous géographiquement dans le territoire de la tribu de Binyamin. C'est-à-dire, la tribu de Binyamin, c'est le territoire dans lequel, plus tard, on construira le Beth Amikdash, et c'est le lieu du miracle. C'est-à-dire que même l'aide miraculeuse qu'a reçue Yehoshua dans la conquête d'Eretz Israël, cette aide miraculeuse n'avait lieu que dans la tribu de Binyamin, qui est le lieu de la présence de la Shekhinah. C'est encore plus réduit. Mais ça veut dire que le peuple d'Israël, qui appartient à la terre d'Israël, lui est au-dessus du monde. En hébreu traditionnel, pour dire les nations, on dit « umot ha'olam », les nations du monde. Pourquoi elles sont appelées les nations du monde? Parce qu'elles sont dans le monde. Mais si les nations sont dans le monde, alors où sommes-nous, nous? Eh bien, nous sommes en dehors du monde, ou au-dessus du monde. C'est-à-dire que le comportement collectif d'Israël ne correspond pas aux lois de la nature. En effet, si on voit l'histoire d'Israël depuis les origines jusqu'à nos jours, bien on verra que c'est une existence paradoxale. C'est-à-dire que selon toutes les données de la nature, le peuple d'Israël n'aurait pas dû tenir. Il a quand même tenu, c'est donc que nous sommes au-dessus des lois de la nature. Vezé Shehamou, maintenant je reviens dans le texte, donc David peut maintenant, voilà. Vezé Shehamou, Chachamenu Zichronam Bivracha, c'est ça qu'on dit nos sages, que leur souvenir soit une bénédiction. Eretz Israël shota techila, et Eretz Israël boit en premier. C'est-à-dire boit quoi? La pluie. Mais en fait, ça veut dire les prières. Vageshamim baim mitehomot. Or, les pluies viennent des abîmes. Kemo shekatou, comme il est dit, tehom el tehom kore. Un abîme appelle un autre abîme. Ou tehom leshon nes. Mais le mot tehom, qui veut dire un abîme, veut dire également un miracle. Que Moshe Katou, comme il est dit, va tehom kol ha'ir. Toute la ville en a été étonnée. C'est dit dans le livre de Ruth, à propos de la rencontre entre Naomi et Ruth et les femmes de la ville de Bethléem. Va tehom kol ha'ir. Toute la ville était étonnée. C'est ki al nes, aynu al dvar chidush matmiin. C'est-à-dire l'étonnement vient du miracle, c'est-à-dire de tout ce qui est exceptionnel. Donc le mot « tehom » ressemble au mot « étonnement » et l'étonnement vient du miracle. Et donc les pluies qui viennent du « tehom », les pluies, ça veut dire en fait le miracle qui vient par la prière. C'est ça qu'on dit nos sages. « Kol hator nishma be'artzenu linyan geshamim » La voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays à propos de la pluie. Ki aikar ageshamim nishma beret Israël, parce que l'essentiel des pluies se fait entendre, c'est-à-dire la prière pour la pluie se fait entendre en Eretz Israël. Ki sham atehomot aynu anisim aynu imunat fila, parce que c'est là que se trouvent les abîmes qui sont les miracles, qui sont la foi, qui sont la prière. Alors quel est le contraire d'Eretz Israël? Ben le contraire d'Eretz Israël, c'est l'Égypte. Or, face à face, Dieu a fait. Ou Mitzrayim, l'Égypte, ou Hefer Eretz Israël, Zele Umadze. C'est le contraire d'Eretz Israël, l'un face à l'autre. Kemo Shekatu, ou Mitzrayim, Nassim Likrato. Ainsi qu'il est dit, et l'Égypte s'enfuit vers elle, c'est-à-dire vers la mer. C'est-à-dire, lors du passage de la mer Rouge, il dit que c'est une expression un peu bizarre. Les Égyptiens fuient vers la mer. Alors, le mot « fuir », il s'enfuit, « nassim », c'est comme le mot « nissim », c'est comme les miracles. Ça voudrait donc dire que les miracles sont le contraire de l'Égypte. chez Mitzrayim, l'Ouma Teret Israël, l'Ouma Tanissim, parce que l'Égypte est à l'opposé des Rets Israël et à l'opposé des miracles. Ou Bishulze en Makom Tefila be Mitzrayim. C'est pour ça qu'il est impossible de faire la prière en Égypte. Que Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, Vaya Kitseti et Taïr et Fros Kapai. Parce que Moshe, quand il priait pour enlever une plaie du pharaon, sortait de la ville pour faire sa prière. C'est-à-dire, quand je sortirai de la ville, c'est alors que j'étendrai mes mains. Donc, ça veut dire que si Eretz Israël, c'est le lieu des prières et des miracles, l'Égypte, c'est le lieu de la nature et sans prière. Bishulze, c'est pour ça que chez Pagam, Avraham, Eretz Israël, Beshach, Yifter, Plok, Kadosh, Baruch, Ali, Rushat, Haaretz, Amar, Bama, Eda. C'est pour ça que lorsque Avraham a remis en question la promesse de Dieu de prendre possession de la terre en disant « Comment saurais-je » « Allié des Ardo Avotenu et Mitzrayim. » C'est pour ça que nos ancêtres sont descendus en Égypte. C'est-à-dire, si Avraham a un doute par rapport à la réalisation de sa prière, enfin la réalisation de la promesse, alors le lieu pour ça, c'est l'Égypte. « Kipagam ba'imuna » parce qu'il a entamé la prière, la imuna, Aïnou Eret Israël Bechinat Nissim, c'est-à-dire, il n'est donc plus digne d'Eret Israël qui est le lieu du miracle, Veyarad Yaakov Vanab le Mitzrayim, Shechar Vefer Anissim, et c'est ça qui a entraîné la descente de Yaakov et de ses enfants en Égypte, qui est le lieu qui est le contraire du miracle. Sheze Leumat Ze, parce que l'un est contre l'autre. Veyardou Dafka Yaakov Vanav, et c'est précisément Yaakov et ses enfants qui sont descendus, qui ou Pagam Beret Israël, parce qu'il a. Il a abîmé Eretz Israël Bechinat Tefila. C'est abîmé Eretz Israël qui est le lieu de la prière. Veyardou Yaakov Vanav. Et Yaakov et ses enfants qui sont descendus. Shu Bechinat Tefila. C'est eux qui ressemblent à la prière. Shem Bechinat Shnemasar Sha'aret Tefila. Car ils sont 12 comme les 12 portes de la prière. Validé Sheikara Tefila et Yaakov Vanav Kanal. Or, comme l'essentiel de la prière, c'est Yaakov et ses enfants. Et là, Yaakov Banav. C'est pour ça qu'ils n'ont mérité Eretz Israël la prière que Yaakov et ses enfants. N'y a-t-il pas une forme de miracle en Égypte? Attendez. N'y a-t-il pas une forme de miracle en Égypte par le fait qu'elle a toujours de l'eau grâce au Nil, sans besoin de prière? Justement, c'est exactement le contraire. C'est ça qui est. La malédiction de l'Égypte, la bénédiction de l'Égypte et sa malédiction. Si vous n'avez pas besoin de prière, donc vous n'avez pas besoin de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes abandonné. Le fait d'avoir tout ce qui est nécessaire est un problème. Par exemple, dans le livre de Job, à propos de Yov, il est dit qu'il avait tout ce qu'il avait, tout ce dont il avait besoin. Il avait des troupeaux, il avait des richesses, il avait des enfants. Et tout se passait, il était juste, c'était un tzaddik absolu. Il avait tout ce qu'il pouvait désirer, il l'avait. Mais, qu'en était-il de Dieu? Ben, c'est pas difficile. Chaque semaine, il faisait des sacrifices selon le nombre de ses enfants. C'est-à-dire qu'il payait également le chèque. Tout le monde était satisfait. Les troupeaux étaient satisfaits, les serviteurs étaient satisfaits, ses enfants étaient satisfaits. Et le bon Dieu aussi était satisfait, il recevait ses sacrifices. Or, c'est pour ça que Yov n'était pas capable de prière, ce qui a emmené la mise en accusation par le Satan. Le Satan dit à Dieu, le problème de Yov, c'est qu'il a tout, il lui manque un manque. C'est pour ça qu'il est dit, Vayomer Hashem et la Satan, mais Aïn Tavo. Dieu dit au Satan, tu es là pour ramener le néant. Mais Aïn, le néant. Et en fait, c'est ça le problème de Yov, c'est qu'il était abandonné en fait par Dieu du fait même de sa routine religieuse de tous les jours qui faisait qu'il ne lui manquait de rien. Dire de ce point de vue-là, l'Égypte est le contraire du miracle qui vient d'une insatisfaction permanente. J'ai besoin d'un miracle parce que je ne suis pas satisfait par la nature. On pourrait dire que la découverte de Dieu par Abraham, c'est également la même chose. Abraham était celui qui n'était pas satisfait de l'état du monde. C'est comme ça qu'il a connu le Créateur. Bon, d'ailleurs, lors de la création de l'homme, il est dit « Ve'adam Aïn », il n'y avait pas d'homme. la voix d'état d'Adama pour travailler la terre. Et les Chachamim ont dit, il n'y avait, et l'homme n'était pas là pour prier pour la pluie. Et c'est pour ça que le jardin d'Éden était alimenté en pluie en permanence par une vapeur. Mais ça veut dire que le jardin d'Éden était un endroit maléfique, un endroit dans lequel on ne peut pas prier. À partir du moment où arrive l'homme, l'homme va prier pour mettre le monde de la nature en contact avec le monde supérieur. Donc je reviens ici maintenant au texte. Veyarad veyardu davka Yaakov uvanav ki upagam beretzal b'chinat fila. Et donc précisément c'est Yaakov et ses enfants qui sont descendus parce qu'il y avait un défaut par rapport à Eretz Israël qui est la prière. Veyardu Yaakov uvanav shem b'chinat fila shem b'chinat shem asar sharet fila. Ce qui fait que ça a entraîné la chute de Yaakov et de ses enfants qui correspondent aux 12 portails de la prière. Validé shi'ikar atefila Yaakov uvanav kanal. Et c'est parce que Abraham a remis en question la capacité de la prière qui est la possibilité du miracle qui est en soi Eretz Israël, qui est la prière. Donc il a fallu que cette capacité soit transmise à Yaakov et ses enfants, que Moshe Katouf, ainsi qu'il est dit, Kibi Yitzhak, Ikare le Chazara, car c'est en Yitzhak que sera considérée ta descendance, l'Okol Yitzhak, et non pas tout Yitzhak, c'est-à-dire Esav est exclu et Yaakov continue. Vezehu, She'amru, Chachamenu Zichonam Livracha, Enag Shamim Yordim, Ela Bishuil Amana, Eidu Brinat Eretz Israël. C'est pour ça que les Chachamim ont dit la prière, nos sages ont dit que les pluies ne tombent que grâce à la confiance que l'on a, c'est-à-dire par Eretz Israël, Shu Brinat Fila, Brinat Emuna, qui est appelée prière et foi, vi shota techila, et c'est elle, Eret Israël, qui boit en premier, shesham a teromot brinat nissim, parce que là, c'est là que se trouvent les teromot, c'est-à-dire les abîmes qui veut dire les miracles, puisque le mot théom veut dire également ce qui est étonnant, que Moshe Katou va terom kolaïr, ainsi qu'il est dit, toute la ville fut étonnée. Veze, shamu, chachamim, zichonam, livracha, c'est pour ça que nos sages, de mémoire bénie, on dit Besha'a she'ageshamim yordim, au moment où la pluie tombe, afilu pruta shebakis mitbarechet, même la petite monnaie qui est dans la poche est bénie. C'est, elle reçoit son abondance. C'est quoi la petite monnaie, la pruta qui est dans la poche? Pruta Zebichinat Kolator. C'est-à-dire, le mot Pruta veut dire en fait la voix de la tourterelle, c'est-à-dire la prière. Maintenant, la tourterelle en hébreu se dit Tor. Mais le mot Tor veut dire également un taureau. En araméen, Torah, c'est un taureau. Et donc, les Chachamim ont dit dans la Gemara que l'ange qui amène la pluie, qui est préposé à la pluie, ressemble à un taureau. Les Chachamim ont dit le Rudia, qui est l'ange qui est préposé à faire tomber la pluie, ressemble à un taureau. Ufrita sifvate, et il a les lèvres gercées. Vehu omed ben tehoma li tehoma, et il est entre un abîme et un autre abîme. Chehu kalul mishna teomot, ça veut dire qu'il réunit en lui les deux abîmes. Chehu klaliut anissim, qui est l'ensemble des miracles. Vezeu peruta shebakis, or, les lèvres gercées, vous avez vu qu'en araméen ça se dit perita. Alors c'est comme le mot peruta, et la petite monnaie shebakis qui est dans la poche. Shepeamim, alors ça veut dire quoi qui est dans la poche? Le mot kis veut dire recouvrir, des chassot. Shepeamim nitkassa koachanissim, parce que parfois la puissance de faire des miracles est cachée. Valiede hagshamim nitbarech apruta, mais par les pluies, la peruta, la petite monnaie, est bénie. Haïnou, cela veut dire anissim, ce sont les miracles, des frita sivvate, dont les lèvres sont entamées. Ça veut dire qu'en fait, le miracle n'est pas toujours un miracle évident. Parfois, le miracle est caché. Il est enveloppé. un miracle enveloppé, c'est la petite monnaie qui est dans la poche. C'est-à-dire peruta, c'est la prière qui amène le miracle, Shebakis, qui est recouverte, ve'elu bnei adam amakrishim kol hanisim. Et les hommes qui nient tous les miracles, ve'omrim she'akol derech hateva, et disent que tout se fait par la nature. Ve'im ro'im ezenes, ezeunes, et s'il leur arrive de voir un miracle, emechasim etanes im derech hateva, ils vont envelopper, ils vont cacher le miracle par les voies de la nature. She'omrim she'ze derech hateva'im. Parce qu'ils diront, ça fait également partie de l'ordre de la nature, c'est-à-dire statistiquement parlant, etc. Vous connaissez cette histoire, la petite fille juive qui est dans une école, et le maître de l'école dit, le maître de la classe dit, est-ce que vous pouvez me dire un exemple de miracle ? Alors la petite fille dit, oui, bien sûr. Le miracle, par exemple, c'est que la mer Rouge s'est ouverte devant les enfants d'Israël et qu'ils ont traversé la mer à pied sec. Réponse du professeur, il dit non, pas du tout. C'est, d'après les historiens, il est probable que les Hébreux ont traversé un étang dont la profondeur n'était pas plus de 50 cm et en fait, ce n'était pas un miracle. Je veux un vrai miracle. Alors à nouveau, la petite fille juive répond, le vrai miracle, c'est que bien qu'il n'y avait que 50 cm, les armées du Pharaon se sont noyées. Donc, c'est-à-dire qu'il y a... parfois une disposition d'esprit qui est de nier que le miracle était un miracle. On dira non, c'était un hasard de la nature, statistiquement parlant, c'était possible que la mer s'ouvre, etc. Nimtza chez Pogmim Batefila, dont on voit que cette approche, en fait, abîme la prière. Qui a Tefila, Inissim chez Meshaneta Teva, parce que la prière, c'est le miracle qui change la nature. Ou Fogmim Baimuna. Et eux abîment la confiance. Shen ma'aminim b'ashgarat abor yitbarach. Ils ne croient pas en la providence du Créateur. Ou fogmim b'eret Israël. Et c'est ça qui abîme Eret Israël, shu mekom anissim, qui est le lieu des miracles. Que Moshe katuv v'kol ator nishma b'artzenu. Ainsi qu'il est dit, la voix de la tourterelle, c'est-à-dire le miracle, se fait entendre dans notre pays. Ou Moshe amru Eret Israël shota techila. Comme on a dit que Eret Israël également boit en premier, qui charme à Théomode, parce que c'est là-bas que sont les abîmes, mais comme Anissim, qui est le lieu du miracle. Que Moshe Katou va Théom Kolaïr, ainsi qu'il est dit, toute la ville a été étonnée. Va les désets tsarich li pol bigalut mitzraim. C'est ça qui nous fait tomber dans l'exil d'Égypte, qui zé le oumadze à ça, parce que Dieu a fait l'un par rapport à l'autre, roi la gelouyot, mechouni beshe mitzraim. Et tous les exils ont pour nom Égypte. Al-Shem chez Metserim li Israël, parce qu'ils font des misères à Israël. Mitzrayim, Metzerim. Vezeu Perush. C'est ça que veut dire le texte. Alors maintenant, nous arrivons dans le cantique de Shirat Hayam, de la mer Rouge. Tehomot Yichasyumu. Les abîmes vont les recouvrir. Alors ça veut dire quoi, Tehomot Yichasyumu? On a vu que le mot abîme, les abîmes, ça veut dire le miracle. Mishe Mechase Etanisi Umare Lechol Davar Shudechateva. Celui qui recouvre les miracles et les présente comme étant une partie de la nature, Yaridou Bimtsolot Kemoaven tombe dans les profondeurs comme une pierre. C'est quoi la pierre? Misham Roé Even Israël. Alors, le mot Even Israël est rappelé dans les paroles de Yaakov, Targumo Avhan Uvnin, qui est traduit par Unkelos comme étant les pères et leurs fils. Metzolot. Et les profondeurs, ze bechinat Mitzrayim, c'est l'Égypte. Chez Nehemar, vayenatzelu et Mitzrayim, que mo'avan uvnin anuya. Et ainsi qu'il est dit, ils exploitèrent l'Égypte. Metzolot vayenatzelu, c'est le même mot, comme les pères et les fils. Aynu Yaakov uvanav shem bechinat filah bechinat nisim bechinat eret Israël, c'est-à-dire Even. Even, ça représente Av Ben, c'est Yaakov et ses enfants. Ces enfants qui sont la prière, qui sont les miracles, qui sont Eretz Israël. Les filles Ridatam ou les filles Abgam, Shepagam, Batfila ou Vaimuna, selon le niveau de leur chute et la mesure dans laquelle ils ont abîmé la prière et la Emuna et Eretz Israël, Ken Tsarich les Red, les Omek, Agalus et Misraim. C'est en proportion de ça qu'on descend dans les profondeurs de l'exil de l'Égypte. que Moshe Yadou Yaakov Anav les Mitzrayim, ainsi que comme sont descendus Yaakov et ses enfants en Égypte, que Shamar Avram Bamaïda à Yerushat Haaretz, alors qu'Avram a demandé comment saurais-je, c'est-à-dire qu'il a émis un doute à propos de la prise de possession de la terre, Atkan les Shonozal, jusque-là, ce sont les paroles de notre maître. C'est-à-dire que ce que quand il dit Tehomot Ichasiumu, ils sont recouverts par les abîmes, ça veut dire ce sont ceux qui vont cacher les miracles. Alors, quand on essaie de cacher le miracle, de nier le miracle, c'est alors qu'on tombe dans les profondeurs de l'exil de l'Égypte. Ce qui veut dire l'exil de l'Égypte, l'emprise des lois de la nature qui vont nous empêcher de faire la tefila. Et donc, il y a ici donc une opposition entre la nature et la prière. Ceux qui croient en la, ceux qui veulent prier doivent d'abord croire que la nature n'est pas un absolu et donc elle peut être surmontée. Et y aurait-il des questions? Vous avez remarqué que je suis un peu enroué aujourd'hui, mais ne vous en faites pas. Pour la prochaine fois, j'aurai une voix claire, étonnante. Voilà. Bon, eh bien, mes chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver. Et nous nous retrouverons très bientôt, je crois, la semaine prochaine. Bezrat Hashem.
Bezrat Hashem. Shavua Tov.
Shavua Tov, Bora.